Bien, je m'appelle Jean-François Luquet. Dans ma vie professionnelle, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée de Borda, ici, à Dax. Et avec quelques habitants du territoire, nous avons créé au mois de novembre dernier une association, loi 1901, dont je suis le président, et qui s'appelle Une école, un toit, des papiers. Elle a pour objet d'accompagner des familles étrangères ayant fait une demande d'asile en France, n'ayant pas obtenu satisfaction et qui souhaitent cependant continuer le parcours d'insertion sociale qu'elles avaient débuté lorsqu'elles sont arrivées en France et qu'on a accepté qu'elles demandent de l'asile. La procédure peut prendre une année entière. Ces familles-là, pendant un an, sont accueillies chez nous, sur notre territoire, sont bien suivies, je vous le montrerai, et parfois, trop souvent à notre goût, au bout d'un an, on leur dit « Non, nous ne vous donnons pas le droit d'asile ». Nous verrons, dans la deuxième partie de nos échanges de ce soir, quelle est alors leur situation et comment on peut leur venir en aide. Lorsque, à quelques-uns, nous avons eu l'idée d'aider ce type-là de migrants, nous nous sommes tournés vers les associations et les institutions qui aident déjà les plus démunis. Ici, sur l'agglomération d'Acquoise. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Bruno. Et dès le début, dès le mois d'octobre, alors même que l'association n'était pas créée, nous avons bien compris que le curé de la cathédrale de Dax voulait s'investir sans compter dans cet accueil. C'est lui qui m'a proposé d'intervenir ce soir, et je l'en remercie. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont là. Je suis plein d'humilité de me retrouver conférencier, parce que je n'ai jamais été conférencier de ma vie. Certes, je parle devant des élèves, mais bon, pas plus. Je me retrouve plus dans le deuxième intitulé des propositions du carême, c'est-à-dire certains jours, il s'agira non pas de conférences, mais de réflexions et échanges. Eh bien, c'est un peu ça ce soir, plus qu'une conférence, hein. Je vais partager avec vous des réflexions personnelles. Je vais partager avec vous des réalisations concrètes qui se vivent ici, et puis ensuite nous pourrons échanger là-dessus. Le temps de réflexion va durer une toute petite heure, en trois temps. Un premier temps où il s'agira d'éclairer la question posée. C'est Bruno qui a choisi cet intitulé, il m'en a proposé deux. Et j'ai privilégié celui-ci. « Migrant, mon frère, qui es-tu ?» En fait, il s'agira de nommer le problème. Je dis bien le problème qui se cache derrière cette question. Dans un deuxième temps, je me propose d'évoquer des chiffres et des faits qui devraient être suffisants pour combattre les idées reçues et qui malheureusement ne le sont pas. Et dans un troisième temps, à deux voix, nous évoquerons les solidarités nouvelles qui sont en train de se tisser sur notre territoire, ici et maintenant. Et ensuite, nous pourrons échanger. Pour éclairer la question posée et nommer le problème, je vous propose trois coups de projecteur dans le premier temps. Nous allons aller faire un tour du côté de la DUDH, On va sélectionner un seul article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13. Nous allons réfléchir à partir de cet article 13. Le deuxième coup de projecteur, nous allons écouter deux lanceurs d'alerte qui considèrent que cet article 13, ce ne sont pas des mots lancés en l'air, des lanceurs d'alerte d'aujourd'hui. Et nous comparerons cet article 13 et les paroles de ces deux lanceurs d'alerte à ce que nous apprennent les sondages de l'état de l'opinion publique en France actuellement concernant la question des migrants. Cela fera émerger le problème et cela nous donnera déjà des premiers éléments de réponse sur « Migrants, qui es-tu ?» L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont deux phrases très courtes. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Si ces deux phrases étaient appliquées, il n'y aurait d'étrangers nulle part et il n'y aurait pas de problème de migration. Cette déclaration, elle a été adoptée à Paris, au palais de Chaillot, par l'ONU, le 10 décembre 1948. Vous aurez beau chercher dans votre mémoire une quelconque commémoration officielle le 10 décembre 2018 des 70 ans de l'adoption de ce texte, vous n'en trouverez pas. Elle s'est faite en catimini, cette commémoration, alors que l'État en France aurait pu, puisqu'elle a été adoptée en France, chez nous, en profiter pour remettre à l'honneur l'article 13 et les autres. Cela n'a pas été le cas. Le comité de rédaction qui avait travaillé 2 ans, de 46 à 48, était dirigé par un proche voisin, un bâillonnais, René Cassin, juriste et diplomate. Il a par exemple donné son nom à l'un des lycées de Bayonne. Pour son action à la tête de ce comité de rédaction, il recevra le prix Nobel de la paix en 68. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci. Les articles qui composent cette déclaration sont un idéal commun à atteindre. Afin d'en assurer par des mesures progressives la reconnaissance et l'application universelle effective. Mais en 48, ce n'était pas un texte contraignant avec un système de sanctions pour les États qui ne le respectaient pas. On pourrait se poser la question des mesures effectives prises 70 ans plus tard pour l'application de ces articles-là. Stéphane Hessel, rescapé de la Shoah, auteur du best-seller « Indignez-vous » il y a quelques années. En 1946-1948, il était jeune diplomate à l'ONU et il a été un témoin privilégié des travaux de rédaction de ce texte. En 2007, dans la revue « Hommes et liberté » de la Ligue des droits de l'homme, il partageait ses souvenirs et son analyse sur cet article 13. Et ils nous disent ceci, deux choses importantes. À l'époque, dans l'immédiat après-guerre, cet article 13 était une nécessité absolue. Je cite, « La guerre avait jeté sur les routes de l'Exode à travers l'Europe et l'Asie des millions de femmes et d'hommes qui erraient et fuyaient plutôt qu'ils ne circulaient librement. » Et il rajoute, en même temps qu'une nécessité, cet article 13 était une ambition d'une haute portée symbolique. Pourquoi ? Parce qu'elle laissait entrevoir l'objectif d'une citoyenneté mondiale où l'homme est partout chez lui, par-delà toutes les frontières. Et celle relevée ensuite que, malheureusement, la vision optimiste des rédacteurs n'a pas prévalu. Très vite, les frontières se sont refermées. Très vite, la circulation a été réglementée par des passeports, des quotas, des visas. Puis, la globalisation accélérée de l'économie mondiale à partir des dernières décennies du XXe siècle ont fait que l'on peut observer une contradiction paradoxale entre la libre circulation des marchandises et des flux financiers, d'une part, et les entraves croissantes mises à la libre circulation des personnes, d'autre part. Il concluait sur cette phrase peu optimiste « Cela fait apparaître aujourd'hui l'article 13 comme un vœu pieux, une utopie irréalisable. » Mais, comme il était pétri d'optimistes, il rajoutait « Il ne semble pas possible d'en rester là. » Angela Merkel, courageuse chancelière allemande, qui ouvre ses frontières en 2015, ne suggère pas autre chose quand elle a affirmé le 11 novembre 2018, lors des commémorations du 100e anniversaire de la signature de l'armistice de 14-18. Dans le discours qu'elle prononce ce jour-là, elle dit « Serions-nous aujourd'hui capables, en tant qu'Assemblée des Nations, d'approuver, comme en 1948, une déclaration universelle des droits de l'homme aussi généreuse, je n'en suis pas sûr, disait-elle. » À ce moment-là, nous avons un premier élément de définition du migrant. Le migrant est une personne qui a des droits. Le droit de quitter son pays et d'aller habiter ailleurs, selon l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Deux lanceurs d'alerte contemporains reprennent à leur compte cet article 13 et tentent de nous faire comprendre qu'il faut le mettre en œuvre aujourd'hui et maintenant. Le premier, c'est le pape François. Je le qualifie de lanceur d'alerte universel, ayant un écho bien au-delà des cercles catholiques et chrétiens. De Lampedusa à Panama, il est un défenseur infatigable des droits des migrants. Le 8 juillet 2013, pour son premier déplacement italien en dehors de Rome, il avait été élu 4 mois plus tôt. Il se rend sur l'île de Lampedusa, située au sud de la Sicile, face aux côtes libyennes. Et il y affirme, je cite, nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris d'autrui. Cela aboutit à une mondialisation de l'indifférence. Il avait lancé un appel ce jour-là à la responsabilité humaine. Où est ton frère? La voix de son sang crie vers moi, dit Dieu. Ce n'est pas une question adressée aux autres. C'est une question adressée à moi, pape, à toi et à chacun de nous. 5 ans plus tard, le vendredi 6 juillet 2018, il commémore sa visite à Lampedusa lors d'une messe en la basilique Saint-Pierre. Voici ce qu'il dit dans l'homélie. Il déplore d'abord que les réponses à l'appel qu'il avait lancé en 2013, j'ouvre les guillemets, même si elles sont généreuses, n'ont pas été suffisantes et nous nous retrouvons à pleurer aujourd'hui des milliers de morts. Le Seigneur a besoin de nos yeux et de nous-mêmes pour secourir. Il a besoin de notre voix pour dénoncer les injustices commises dans le silence parfois complice de beaucoup. Le silence du sens commun. Le silence du « cela a toujours été comme ça ». Le silence du « nous » toujours opposé au « vous ». Ne pas se salir les mains, comme le prêtre et le lévite de la parabole du bon samaritain, est une tentation bientôt présente de nos jours. Et il ne s'arrête pas. Lors des récentes JMJ à Panama, il y a quelques semaines, à la fin du mois de janvier, il revient sur cette question, qui a aussi son acuité en Amérique latine. Nous le savons bien. Le jeudi 24 janvier, devant l'Assemblée générale des évêques d'Amérique latine, il dit, j'ouvre encore les guillemets, « Beaucoup de migrants ont un visage jeune. Ils recherchent un bien plus grand pour leur famille. Ils n'ont pas peur de risquer et de tout laisser afin de leur offrir le minimum de conditions qui leur garantissent un avenir meilleur. À ce sujet, il ne suffit pas de dénoncer. Nous devons aussi annoncer concrètement une bonne nouvelle. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants peuvent être les quatre verbes avec lesquels l'Église, dans cette situation migratoire, conjugue sa maternité dans l'aujourd'hui de l'histoire. » Il parle aux évêques, là. Le lendemain, c'est aux jeunes qu'il parle. Le vendredi 25 janvier. Et il s'en prend à la stigmatisation, et ce sont ses propres mots, insensée et irresponsable des migrants et rejette la présentation que souvent les pouvoirs politiques font des migrants une menace pour la société. Dans l'avion qu'il a mené à Panama, comme souvent il discute avec les journalistes, en off, et les off sortent. Il avait prononcé ces mots-là. La peur nous rend fous. Nous voulons être une église qui ne stigmatise pas, qui ne généralise pas, par la condamnation la plus absurde et la plus irresponsable, en identifiant tout migrant comme porteur de mal social. Deuxième définition du migrant, parce qu'il n'est pas. Le migrant n'est pas porteur de mal social et nous lui devons l'hospitalité. Le deuxième lanceur d'alerte s'appelle Jacques Toubon. Oui, Jacques Toubon. L'ancien ministre de la Culture et de la Justice de Jacques Chirac, de 93 à 97. Il a une fonction essentielle dans la République aujourd'hui. Il est défenseur des droits. Cette fonction n'existe que depuis 2008. Elle rassemble trois fonctions qui étaient éparpillées auparavant. L'ancien médiateur de la République, l'ancien défenseur des enfants et l'ancien président de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. On a fusionné tout ça. Dominique Boudis, l'ancien maire de Toulouse, en a été le premier défenseur des droits. Jacques Toubon en est le deuxième. Le défenseur des droits agit. Il fait des rapports, des enquêtes, des recommandations, des mises en demeure. Il peut même saisir la justice. Il parle peu dans les médias. C'est pourquoi lorsqu'il parle, comme sa parole est rare, souvent elle n'est pas anodine. Par exemple, le 24 juin dernier, dans le contexte de l'épilogue de la première affaire Aquarius, le navire humanitaire qui transportait 630 migrants et dont beaucoup de ports refusaient l'accostage, notamment Malte et l'Italie, cela avait duré une semaine avant que le port de Valence n'accepte que les 630 migrants puissent débarquer en Espagne. Parmi les voix qui se sont élevées pour déplorer que le gouvernement français n'ait pas proposé d'accueillir le bateau alors qu'il passait à proximité des côtes de la Corse pour se diriger vers l'Espagne, la voix de Jacques Toubon dans une interview au JDD, le journal du dimanche. Il déplorait la peur et l'idée fausse d'une submersion migratoire qui guide les opinions publiques et les choix politiques. L'idée d'une submersion de notre territoire par des migrants en trop grand nombre est fausse. Le solde migratoire en France est nul au cours des 30 dernières années. Il ne rentre pas plus de personnes qu'il n'en sort. Il faut que la vérité et la raison reprennent le dessus sur les préjugés et les émotions pour que soient respectés scrupuleusement les droits fondamentaux, rajoutait-il. Pas de trêve des confiseurs pour le défenseur des droits. Trois interventions entre le 21 et le 24 décembre 2018. Le 21 décembre, un communiqué de presse pour s'opposer à ce que l'État et les départements utilisent des tests osseux à fiabilité douteuse pour déterminer la minorité ou la majorité de migrants qui affirment être des mineurs et qui, parce qu'ils sont mineurs, doivent être protégés par l'État et leur statut de migrant s'efface devant leur statut de mineur en danger. Il est aisé pour certains départements, puisque l'État délègue cette mission de service public depuis quelques années aux départements, de se défausser de leur mission en contestant de plus en plus la minorité de ces mineurs non accompagnés et en utilisant y compris des tests osseux à fiabilité douteuse pour déclarer la majorité et, comme pense Pilate, ne pas prendre en charge ces mineurs-là. Jacques Toubon le conteste le 21. Le 24, il publiait un rapport « Exilés et droits fondamentaux ». Deux éléments tirés de ce rapport. Le défenseur des droits relève des atteintes inédites aux droits fondamentaux des exilés et adresse des recommandations au pouvoir public, c'est-à-dire à l'État. Il constate que des entraves persistantes à l'entrée dans la procédure d'asile, la saturation des dispositifs d'accueil des exilés, conduisent les campements qui sont évacués systématiquement à se reformer et contraignent les exilés à subir des conditions de vie, je cite entre guillemets, inhumaines et dégradantes. À défaut d'une politique nationale assurant un véritable accueil, les collectivités locales et les associations caritatives sont contraintes d'agir seules parce que l'État ne fait pas son travail. Dans un contexte où se maintient parfois la pénalisation de certains actes de solidarité, où l'État criminalise le travail que font des humanitaires. On pourra y revenir plus tard. Il recommande donc, le défenseur des droits, d'élargir l'humanité pénale à tous les actes que les collectivités locales où les associations caritatives et humanitaires mènent dans le domaine de l'aide aux migrants dans un but strictement humanitaire. Par ailleurs, le défenseur des droits notait aussi un renforcement de la présence policière sur tous les lieux de vie des exilés et un usage injustifié de gaz lacrymogène et des méthodes peu respectueuse des effets personnels des exilés lorsque les camps sont vidés. C'est-à-dire où on déchire les couvertures, les sacs de couchage, les tentes des migrants. On, la police. Là, ce ne sont pas les humanitaires ou les militants d'extrême gauche qui disent ça, c'est le défenseur des droits, nommé par le président de la République. troisième élément de définition du migrant. Qui est le migrant ? Il est une personne qui peine à faire valoir ses droits auprès des pouvoirs publics. Face à ces éléments-là, qui vont dans le même sens, quel est l'état de l'opinion publique si on en laisse foi aux sondages d'opinion ? Deux sondages. Le premier date du 27 septembre. Il est commandé par France Info et Le Figaro au moment où l'on vit la deuxième affaire de l'Aquarius. L'Aquarius est reparti en mer. Il a 58 migrants à bord. Malte et l'Italie refusent. Au contraire de la première fois, l'Aquarius demande officiellement à la France de pouvoir accoster à Marseille. Emmanuel Macron donne l'ordre de refuser cela. On demande aux Français ce qu'ils en pensent. Et une deuxième fois, c'est Valence qui accueillera. 74% des Français sont d'accord avec le fait d'avoir refusé d'accueillir ces 58 personnes. 74% des Français. Toutes catégories de population confondues. Le refus est majoritaire. Sexe, âge, conditions socio-professionnelles. Les deux tiers sont d'accord avec la justification qui est donnée par Emmanuel Macron. J'ai conscience parfois de donner le sentiment de ne pas céder à de bons sentiments faciles, mais si je suivais cette voie, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays et elle ne réglerait pas le problème durablement. Mais on a l'impression que les Français sont quand même bizarres, hein, comme s'ils étaient déboussolés, parce qu'en même temps qu'ils disent cela, 51% des sondés ont une très bonne opinion des organisations non gouvernementales qui s'occupent des migrants, notamment de Médecins sans frontières et de SOS Méditerranée qui affrétaient ce navire. Le président de cette ONG, SOS Méditerranée, qui dit le contraire de M. Macron. La meilleure façon de perdre notre identité, c'est de renoncer à nos valeurs démocratiques et européennes et de se laisser prendre par cette idée d'invasion largement fantasmée. Le deuxième sondage, plus récent, il date de décembre. C'est la presse quotidienne régionale qui l'avait demandé, et donc les résultats sont parus dans Sud-Ouest et ont été analysés, notamment par l'éditorialiste de Sud-Ouest qui s'appelle Bruno Dive. Voilà ce qu'il en dit, lui. Le titre accrocheur, politique migratoire, l'accueil n'est pas la priorité des Français. Il basait son analyse sur le fait que pour 60% des Français, l'Union européenne devrait faire preuve de plus de fermeté au sujet de l'accueil des migrants. Seul un quart des sondés trouve que l'Union européenne est trop ferme et demande un meilleur accueil. En clair, la gauche, dans toutes ses composantes, souhaite plus d'humanité et d'humanisme. La droite, le Rassemblement national, plus de fermeté. Les marcheurs aussi. C'est Bruno Dive. Toute classe d'âge, y compris les plus jeunes, réclame plus de dureté. Deuxième élément du sondage, près de deux tiers des Français trouvent que la France accueille trop de migrants. Deux tiers des Français trouvent que la France accueille trop de migrants et la moitié des Français pensent qu'il faudrait ne plus avoir un droit d'asile politique aussi ouvert que maintenant. Ce ne sont que des sondages. Le migrant, quatrième élément de définition, est donc celui qui révèle nos faiblesses, nos peurs et notre ambivalence. Il permet aussi de nous poser peut-être la vraie question Le problème caché derrière un migrant, mon frère qui est tu, serait peut-être sûrement ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce une crise migratoire ? À ce moment-là, les principales responsabilités sont à chercher du côté des migrants et des pays qu'ils quittent. Ou est-ce une crise de l'accueil ? Et à ce moment-là, les principales responsabilités sont à chercher chez nous et en nous. Bien entendu, si je pose la question ici et maintenant de cette manière-là, vous voyez ce que je veux essayer de vous démontrer dans la suite de nos échanges. Premier temps, il est terminé.